La Brosse, bonne journée à tous, il est 10h40 à Paris.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
On vous en parle depuis le début de la matinée à l'occasion du sommet qui se tiendra demain à Abuja au Nigeria sur la lutte contre Boko Haram. RFI vous propose tout au long de la journée de nombreux rendez-vous, des invités, des reportages, des analyses sur les conséquences économiques de l'implantation de ce groupe islamiste dans les pays du bassin du lac Tchad. Car cette guerre contre Boko Haram n'a pas que des conséquences, n'a pas que des répercussions sécuritaires. Elle a aussi un impact sur l'économie des zones frontalières entre le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun. Si vous avez eu la chance d'écouter les différents reportages que nous vous proposons depuis le début de la matinée, on s'aperçoit finalement que les répercussions sont importantes sur les filières agricoles, les champs sont désertés par les populations, de nombreux marchés villageois ont dû fermer, des routes sont bloquées. Du coup, les populations rencontrent des difficultés d'approvisionnement et par ricochet, on s'aperçoit que les prix flambent. Donc si vous êtes au Niger, au Cameroun, au Nigeria ou au Tchad, appelez-nous, vos témoignages nous intéresse, dites-nous quel impact cette crise a sur l'économie de votre pays, quelles conséquences finalement sur votre vie quotidienne et plus largement, on peut s'interroger également sur les répercussions sur le développement de toute la région. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Et on va commencer avec le témoignage de Mamadou qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Bonjour Mamadou.
Bonjour, Monsieur Gomez. J'appelle effectivement N'Djamena.
Et vous êtes vous-même ressortissant de la région du lac Tchad et vous disiez au Standard que sur place, les activités étaient au point mort.
Oui, en effet, toutes les activités tournent au point mort parce que avec le phénomène de Boko Haram dans la région du lac Tchad, l'économie tchadienne et plus particulièrement celle de la région du lac a connu une situation extrêmement grave dans la mesure où toutes les frontières sont fermées, les échanges économiques, commerciaux entre le Nigeria et le Tchad ne s'effectuent plus, et ce qui amène aujourd'hui à une flambée extraordinaire des prix des matières, de certains produits sur le marché régional que de la capitale N'Djamena.
Ouais. Les conséquences sont énormes, nous dit Sénat sur Facebook, surtout quand on sait que plus de 30 millions de personnes vivent autour du lac Tchad. Beaucoup de commerçants tchadiens qui exportaient leur bétail pour le vendre au Nigeria ne peuvent plus travailler. C'est un manque à gagner réel pour mon pays, nous dit Sénat sur les réseaux sociaux. Donc, situation inquiétante. Comment vous ressentez sentez-vous au quotidien, Mamadou, les conséquences économiques, vous qui êtes à N'Djamena, donc malgré tout à des centaines et des centaines de kilomètres de la frontière?
Oui, M. Gomez, la conséquence, elle est multiforme, dans la mesure où aujourd'hui, il y a d'abord une loi qui a été prise concernant, n'est-ce pas, le couvre-feu qui interdit tout mouvement de personnes à partir de 18h jusqu'à 6h du matin. Il y a un déplacement énorme des populations, à peu près 20 000 personnes de la partie insulaire vers la terre ferme, avec leur bétail qui ont une habitude environnementale spécifique, puisque les bétails au niveau du lac Tchad sont une race extraordinaire, parce que c'est une race qui ne vit que seulement dans la partie insulaire. Et aujourd'hui, en les ramenant sur la terre ferme, les animaux quittent la terre ferme pour regagner leur environnement naturel, et ça pose un problème de sécurité. L'autre aspect, c'est aussi la flambée des prix des produits, certains produits, notamment le ciment qui, naguère, est vendu à 7 500 francs aujourd'hui, caracole autour de 12 500 francs. Ouais. Rien que seulement les petits sachets de lessive coûtent de 25 francs à 50 francs, les cubes magiques 5 à 50 francs aujourd'hui.
Donc tous les prix augmentent, le ciment, le cube magie, le sachet lessive, tous les prix flambent, et on le comprend bien à travers votre témoignage. Quelles nouvelles avez-vous de la situation dans la région du lac Tchad? J'imagine que vous avez encore de la famille sur place. Est-ce que votre famille vous parle de la difficulté à vivre au quotidien?
Oui, toute ma famille vit dans la région du lac Tchad, sauf que moi qui suis à N'Djamena. Donc cette famille tout le temps m'appelle au téléphone pour dire que voilà, les choses, les prix ont grimpé et que nous traversons une situation difficile. La surproduction n'est pas écoulée, le poisson fumé n'est pas écoulé vers le Nigeria. Donc ça est un véritable problème non seulement de alimentaire, économique, mais également de liberté, parce que les gens sont confinés dans une superficie quelconque donnée et qui ne peuvent pas se mouvoir, donc ça pose énormément de problèmes. Donc en cela, je dis que vraiment le phénomène Boko Haram constitue un frein au développement de la région et en partie du Tchad.
Ouais. Merci à vous, merci Mamadou de ce témoignage. Un détour rapide sur la page Facebook, Souleymane constate lui aussi qu'au Tchad, le prix de tous les produits manufacturés a augmenté. Pascal, qui est au Cameroun, fait le même constat. Les denrées alimentaires sont de plus en plus chères. Dans la zone rouge, les écoles sont fermées et il nous dit que le gouvernement a même ouvert un compte appelé Effort de guerre. Les populations sont invitées à faire des dons pour soutenir l'armée camerounaise qui est engagée au front, mais aussi pour aider les populations victimes des exactions de la secte islamiste Boko Haram. On repasse au standard au 33 9 693 693 70. Bonjour Martial.
Oui, bonjour Juan Gomez.
Vous nous appelez de Yaoundé, vous êtes guide touristique et vous subissez, vous personnellement, de plein fouet les conséquences économiques de la guerre contre Boko Haram.
Ça, c'est le cas de le dire, parce que vous savez déjà, l'extrême nord du Cameroun, c'est une des parties les plus touristiques, on va dire comme ça, sur l'ensemble du territoire camerounais. Donc, par cela, cette guerre a vraiment mis à mal les activités touristiques que regorge cette belle partie du Cameroun. Déjà, il faut remarquer que la partie de Romsiki, qui est un village vraiment d'un panorama, je dirais, pittoresque, qui attirait plein de touristes l'année. Aujourd'hui, c'est quasiment fermé. Et puis, il faut aussi dire que les hôtels qui regorgent cette partie du Cameroun ont vu portes fermées. Les restaurants, pareil. L'artisanat, complètement à terre. Alors donc, vraiment, nous, guides touristiques, bien sûr, camerounais, nous n'y allons plus. Nous n'y allons plus parce que, déjà, sur le plan, il y avait une insécurité qui était en place. Et puis, il y a également des difficultés à pouvoir quand même loger des personnes, puisque tout était carrément fermé il y a 3 ans de cela. Mais aujourd'hui, quand même, on a espoir que les activités vont revenir sur le point.
J'imagine, des milliers de personnes qui vivaient du tourisme qui se retrouvent aujourd'hui au chômage technique, donc sans revenus.
Tout à fait, parce que déjà, je disais un peu plus haut que les hôtels sont quasiment vides, il n'y a plus personne qui y va. Déjà, l'activité touristique ne marche plus, il y a 3 ans dans l'extrême nord du Cameroun, et au niveau même également des restaurants, tout est quasiment fermé. Et puis, donc, toutes les personnes qui vivaient grâce à l'activité touristique aujourd'hui sont quasiment, ont dû retourner la chemise pour aller dans d'autres domaines d'activité, pour essayer de joindre les deux bouts, parce que tous ces secteurs-là, aujourd'hui, dans l'extrême nord du Cameroun, a connu vraiment un ralenti, je dirais cela comme ça.
Et vous personnellement, comment faites-vous si vous ne pouvez plus faire votre métier de guide touristique? Vous êtes bien obligé de trouver un autre travail pour justement arrondir les fins de mois?
Bon, tout à fait. Bon, heureusement, le Cameroun, c'est quand même 10 grosses régions. Donc, nous avons d'autres régions qui ont quand même essayé de façon aléatoire à continuer à fonctionner. Mais il faut quand même dire que oui, j'ai été obligé personnellement de pouvoir vaquer à d'autres occupations, donc à ouvrir un petit commerce aussi quelque part pour essayer de joindre les deux bouts. Mais comme je le disais, le Cameroun, c'est quand même un patrimoine riche de 10 régions, dont le Grand Sud aujourd'hui, on est en train de faire découvrir au reste du monde les activités touristiques du reste du Cameroun, parce que ce n'est pas que l'extrême nord. Nous avons également, par exemple, l'ouest du Cameroun, ou bien encore l'est du Cameroun, ou bien d'autres régions qui sont aussi riches que celles de l'extrême nord. Mais il faut préciser, l'extrême nord reste encore quand même le flambant ou bien le drapeau du tourisme camerounais.
Bien, écoutez, merci Martial de ce témoignage, bon courage à vous, merci de nous avoir contactés. Mokhtar, vous êtes à Niamey au Niger, bonjour.
Bonjour Gomez, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous souhaitiez également prendre la parole ce matin, on vous écoute.
C'est exact, monsieur Gomez. Donc, au Niger, l'une des conséquences de cette menace liée à Boko Haram est la coupe budgétaire des secteurs sociaux de base. Aujourd'hui, monsieur Gomez, le gouvernement était contraint de couper les lignes budgétaires des secteurs sociaux de base comme l'éducation, la santé, l'hydraulique, pour gonfler le budget du ministère de la Défense. Et ça, c'est l'une des conséquences liées à cette crise de Boko Haram. Cette conséquence, cette crise a eu comme conséquence, n'est-ce pas, le non-paiement de certains enseignants contractuels qui aujourd'hui se retrouvent avec des arriérés de salaire. Cela impacte également dans le quotidien des populations nigériennes.
Donc il y a, Mokhtar, si je comprends bien, au-delà des conséquences économiques, on assiste aujourd'hui à une grogne sociale, puisque vous le disiez, le gouvernement préfère, on va dire, investir dans l'armée plutôt que dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Donc du coup, les enseignants ne sont pas forcément systématiquement payés à la fin de chaque mois.
C'est exact, M. Gomez. Malheureusement, c'est une guerre injuste qui a été imposée au gouvernement du Niger. Nous n'avons pas le choix. Pour assurer la sécurité des populations nigériennes et du Niger, il faut forcément gonfler le budget du ministère de la Défense. Je pense que là, c'est l'une des conséquences qu'il faut tirer de cette crise liée à la menace sécuritaire. Donc, ouais. Je pense qu'on n'a pas le choix. On est obligé, pour assurer la sécurité des populations nigériennes, d'augmenter le budget. Donc, c'est là l'une des conséquences, en tout cas, pour les pays pauvres comme le Niger. On est obligé, en tout cas, de faire des sacrifices au niveau des secteurs sociaux de base pour assurer la sécurité. Ouais. Donc, c'est l'occasion ici de lancer un appel à la communauté internationale pour qu'ils viennent en aide, en tout cas, à des pays pauvres comme le Niger, pour qu'ils puissent faire face à ces défis sécuritaire.
Dans votre vie quotidienne, quel est l'impact puisque le Niger est un pays enclavé, grande majorité des produits qui sont vendus sont importés, ils viennent notamment du Nigeria. Est-ce que vous avez, vous aussi, comme c'est le cas pour les auditeurs qui nous ont appelés tout à l'heure, notamment du Tchad et du Cameroun, constaté une augmentation des prix?
Je vous donne un exemple, Monsieur Gomez, notamment, vous savez, le Niger importe beaucoup du bétail au niveau du Nigeria. Donc, du fait de cette menace sécuritaire, ce business, ce commerce lié au bétail n'est plus productif, n'est plus lucratif pour les populations nigériennes qui vivent à plus de 50% de l'élevage et de l'agriculture. Ça, c'est un. Au niveau de la région de Diffa, où les populations environnantes au niveau de la Komadougou Yobé vivent essentiellement du commerce du poisson et du piment rouge, ont vu ce business stoppé. De cette menace sécuritaire liée à Boko Haram.
Donc, je ne sais pas si vous avez entendu ce matin le très bon papier de Nicolas Champeau, journaliste au service Afrique des RFI, qui nous racontait que depuis maintenant plus d'un an, la pêche était interdite à Diffa pour empêcher que le poisson fumé ne finance le groupe islamiste.
Donc, c'est exact, M. Gomez. Et ça, c'est un manque à gagner pour les populations de la région de Diffa, qui vivaient essentiellement de ce commerce.
Merci à vous de ce témoignage, Mokhtar. Bon courage, bonne journée à vous. Amadou, tiens, qui est au Cameroun, il nous dit à peu près la même chose que vous, Mokhtar, vous qui êtes au Niger. Il nous dit au Cameroun, le budget de la défense a explosé au détriment des secteurs clés tels que l'agriculture, l'éducation et la santé. Moussa, le lac Tchad était le carrefour commercial stratégique pour les quatre pays riverains, le Tchad, le Niger, Nigeria, Cameroun. Mais depuis des mois, l'insécurité paralyse les échanges économiques. Par exemple, le transport commercial et l'élevage, de plus en plus de jeunes diplômés se retrouvent sans travail, nous dit cet auditeur. Vous continuez à nous appeler, 33 9 693 693 70. Charles, bonjour.
Bonjour, Gomez.
Vous êtes à N'Djamena, au Tchad, on vous écoute.
Oui, effectivement, je suis ici à N'Djamena et je voulais intervenir sur l'impact économique de l'intervention des actions de Boko Haram.
Alors Charles, excusez-moi, je vous interromps tout de suite, ne raccrochez pas, on va régler ça hors antenne, on va essayer d'améliorer le réseau téléphone et on vous retrouve, c'est promis, d'ici la fin de l'émission. On parlait tout à l'heure de Diffa, je vous disais que la pêche était interdite sur place depuis maintenant plus d'un an. On a justement un auditeur sur place, quel est son prénom si on peut me le rappeler? Boukar, bonjour Boukar. Ah, on a perdu Boukar. Alors... Vous êtes là, Boukar?
Je suis là, je vous entends, monsieur Johan.
Eh ben moi aussi,
oui,
je vous entends. Et je suis ravi que ça fonctionne. Diffa, c'est au sud-est du Niger. Et vous souhaitiez témoigner également ce matin, on vous écoute.
Oui, monsieur Johan, les deux activités principales de la région de Diffa sont la pêche du poisson et la culture du poivron. Et malheureusement, aujourd'hui, les cultivateurs du poivron se sont pris entre deux feux, et le feu de Boko Haram. Et à chaque fois quand l'armée pourchasse Boko Haram, les éléments de Boko Haram se confondent à cette population et que l'armée aussi fasse des bavures de temps en temps. Donc, la pratique de cette activité est interdite pratiquement d'elle-même. Et ce qui fait que...
Et c'est une mesure, excusez-moi Boucard, c'est une mesure que vous comprenez, qui vous semble malgré tout légitime, même si elle a des répercussions dramatiques, évidemment, pour les pêcheurs et pour les producteurs de poivrons.
Elle est légitime en ce sens que Boko Haram utilise, n'est-ce pas, ses voies pour parvenir à ses sales besoins. Donc, moi, je pense bien que si les autorités du Niger ont décidé de, n'est-ce pas, mettre ferme à ces pratiques, ce n'est pas parce qu'ils veulent le faire, mais ils ont l'obligation de le faire. C'est dans le souci de protéger la population que ces mesures sont prises. Et malheureusement, donc, c'est comme ça. Et on souhaite que les activités reprennent le plus tôt possible. Parce que c'est ça la vie. La vie économique de DIFA est basée sur le 2P, comme on l'appelle, le poisson et le poivron.
Ah oui, effectivement. Vous avez l'impression que la population sur place à DIFA est livrée à elle-même, ou au contraire, les autorités essaient tant bien que mal de les aider, de les soutenir au moins économiquement un peu, socialement, ou pas du tout?
Du côté du Niger, vraiment, ça se passe bien. Mais c'est que le problème, c'est de l'autre côté de la frontière du Nigeria. Et très sincèrement, on ne sent pas un effort. On a aujourd'hui sur le sol nigérien plus de 250 000 Nigériens qui vivent à DIFA, ce qui n'est pas moindre quand même. Mais du côté du Niger, j'avoue, et je vous garantis que les choses se passent comme il se doit. Et on souhaite que la même chose se passe de l'autre côté de la frontière.
Alors 250 000, c'est peut-être un peu beaucoup. Le chiffre qu'on donne, nous, sur notre antenne, en tout cas que Nicolas Champeau a donné ce matin, c'était de 150 000 réfugiés nigérians installés dans la région de DIFA. Et à cela, il faut ajouter près de 200 000 déplacés internes. Boucard, merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. Bon courage à vous également. On parlait du Nigeria à l'instant, puisque effectivement DIFA, juste en face il y a donc le Nigeria, il y a cette frontière, les insurgés qui régulièrement commettent des incursions dans les villages. Emmanuel, vous êtes à Lagos, vous êtes au Tchad, au Nigeria, bonjour.
Bonjour monsieur.
Bienvenue, on vous écoute.
Oui, alors je vois, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites à propos de la fête. Nous, nous sommes à Lagos et la réalité est que les activités économiques tournent vraiment au ralenti parce que pour la plupart des produits agricoles, ils viennent du nord producteur et ce nord est totalement dévasté. Même les agriculteurs ne parviennent plus à cheminer leurs produits. Donc c'est la raison pour laquelle il y a cette flambée de prix et parfois même lorsque vous avez besoin de ce prix, elle se raréfie. Et ce n'est pas à moindre coût, c'est la réalité ici.
C'est-à-dire que même à Lagos, vous subissez de plein fouet la flambée des prix.
Oui, c'est vrai, surtout des produits agricoles, parce que le nord nigérian, c'est la partie où ça se produit. Et donc nous sommes au sud-ouest, et pour que le nord puisse approvisionner le sud, il faudrait d'abord les acheminer. Et d'abord, les routes ne sont pas bonnes, et même si vous prenez le risque de partir par la route, vous courez toujours le risque de vous voir peut-être arrêté par les éléments de Boko Haram ou quelque chose de ce genre. Donc,
c'est intéressant ce que vous dites, puisque on a écouté ce matin le reportage de notre correspondant au Cameroun. Il est allé à la rencontre des transporteurs routiers entre Douala, N'Djamena et même pour certains, ils partent de Douala jusqu'à Bangui en Centrafrique. Et on voit bien que c'est compliqué pour les chauffeurs de prendre la route. Ils sont confrontés déjà en temps normal à des tracasseries administratives, mais là ils sont confrontés également à l'insécurité. Et les routes se dégradent de plus en plus. Et comme il y a l'insécurité, eh bien personne n'a envie d'aller sur place pour remettre en état les routes. Témoignage le vôtre, Emmanuel Alegos, qui se retrouve tout à fait dans le reportage qu'on a pu entendre ce matin tourné au Cameroun. Reportage d'ailleurs que vous pourrez entendre à partir de midi 10 heures de Paris. Grand reportage. Nos quatre correspondants au Cameroun, au Nigeria, au Niger et au Tchad sont allés à la rencontre de ceux qui sont directement touchés par la crise. On a donné la parole aux consommateurs, aux commerçants, aux entrepreneurs. Un reportage donc à écouter un peu plus tard dans la journée. Afrique Midi sera également largement consacré tout à l'heure à cette crise, la crise qui pèse sur le quotidien des populations de la région. Et le débat du jour sera consacré également à cette question. Boko Haram, la solution est-elle uniquement sécuritaire? Merci à tous de votre fidélité. Lundi à ce micro, vous retrouverez Marie Cazadebé. Débat sur le retour des réfugiés en Côte d'Ivoire. 300 000 Ivoiriens avaient fui le pays lors de la crise post-électorale. Ils sont encore 49 000 à vivre à l'extérieur. Et aujourd'hui, les